Rébonjour. Je vais vous présenter un grand poète portugais, Margarita Valdelgato. Margarita a eu une longue carrière dans sa courte vie et elle est reconnue comme une des voix les plus importantes de la poésie portugaise contemporaine. Elle enseigne à Lisbonne des cours de littérature anglaise. Elle est traductrice, comme je vous l'ai signalé. Elle a traduit magnifiquement les livres d'Alice, qui n'est pas la chose la plus facile de traduire à aucune langue. Et elle s'est prêtée à ce dialogue parce qu'elle aime beaucoup Virginia Woolf, mais elle va essayer de nous parler en français, elle va nous faire cet honneur, et si jamais elle tombe sur une phrase, une idée qu'elle ne peut pas exprimer en français, elle passera à l'anglais ou peut-être au portugais, j'essaierai de l'aider. Donc, Margarita, on va commencer.
Merci bien d'être ici et merci bien Albert pour m'avoir invité et merci aussi au Collège de France. Bon, je ne suis pas prof de littérature anglaise, je suis prof de littérature nord-américaine et c'est ce que j'ai dit à Albert quand il m'a invité. Je ne suis pas spécialiste en Virginia Woolf, mais Albert m'a dit, bon, je t'invite parce que j'aimerais t'écouter sur la fluidité des genres dans la littérature plus récente. Et bien sûr, j'avais lu Virginia Woolf, c'est une rencontre que j'ai faite quand j'avais 19 ans. Le premier livre, c'était To the Lighthouse. Je ne sais pas le nom en français, mais quand même, j'ai préparé les citations ici en anglais, donc je dois lire en anglais un petit peu. Vous comprenez ce que je dis? Ok. Je n'ai pas préparé une conversation écrite. Et si je l'avais préparé, je devrais traduire en français très rapidement. Quand j'ai pensé de ce que j'aimerais parler dans Orlando, j'ai fait ce titre qui est « Orlando or a Land Our Own », qui est un jeu de mots avec « A Room of One's Own », mais qui aussi soulève le caractère de la nature dans Orlando et qui peut aussi le rapprocher du pansement qui conjoint l'environnement ou les pratiques soutenables sur l'environnement et le travail qui est donné au genre et la nécessité de défaire les politiques strictes de l'attribution en général et de la propriété et de l'identité peut-être.
Là, pour confirmer que Woolf était très intéressé dans la nature, les fleurs, la botanique, donc il avait au même temps l'intérêt porté sur le genre humain, mais aussi ce que nous appellerons aujourd'hui un œil écologique.
Oui, et quand même, quand on voit ce que se passe dans Orlando, c'est curieux et ça se rapproche à ce qu'a dit Alberto jusqu'à un certain point parce que Il n'y a pas de changement en la relation avec la nature de Orlando homme et Orlando femme. Ou peut-être il y a un petit changement jusqu'à la fin où elle, au lieu de faire l'amour avec le mari, elle est comblée des feuilles. Il y a une relation érotique avec la nature en opposition à l'absence d'érotisme dans le roman en général. Le passage du genre au même les instants de rencontre avec quelqu'un, avec Sacha ou avec le mari quand elle est femme, ce sont des rapports de conversation. Il parle pendant des heures. Il voit l'autre sexe l'un dans l'autre. La première fois que Orlando rencontre Sacha, il pense qu'elle est un homme et ça serait dommage de ne pas l'embrasser. Et puis il découvre qu'elle est une femme, il est content, mais il cause pendant des heures et rien. Et il dit que ça a veine. Cependant que Orlando, quand il voit Sacha dans les bras d'un homme, qui est un homme de basse condition,
oui.
qui est peut-être aussi d'une autre race, il fut enragé. Donc je pense qu'il y a, qu'on peut lire dans le roman tout un réseau de relations avec une structure de narratif qui est patriarcale et contre laquelle Wolf se rébelle. Et je pense même que c'est pourquoi que Orlando a été... c'est pourquoi qu'elle écrit Orlando. Pour défaire les narratifs qui se sont... au moins pour défier, parce qu'il n'y a pas de la narrative alternative encore, excepté que confound it all. C'est une chose qu'elle dit beaucoup de fois dans le roman, spécialement dans la deuxième moitié, confound it all. Allons-nous confondre des choses? Et pour revenir à la relation avec la nature et à ce que Alberto a dit, c'est vrai que Wolf avait cette relation avec l'espace naturel. Je vais lire en anglais une entrée du journal de Wolf, un Jean H. I was looking at the flower by the front door. That is the hole, I said. I was looking at a plant with spread of leaves, and it seemed suddenly plain that the flower itself was part of the earth, that a ring enclosed what was the flower, and that was the real flower, part earth, part flower. Il y a un moment où on dit d'Orlando aussi qu'il est en partie terre, en partie le sang bleu. Mais on doit se méfier aussi de ça parce que je pense qu'il y a un caractère idiot, nasty,
oui.
méchant. D'Orlando, c'est son indifférence son indifférence qui, bien sûr, est construite. On le sent parce qu'on voit que des gens meurent, qu'il y a le grand dégel.
Il y a beaucoup de
violence. Ouais. Le roman commence avec Orlando qui coupe. qui coupe, donc qui joue avec une tête coupée, mais qui fait le geste.
Je vous explique la première scène où on voit Orlando enfant, à peine adolescent, il est en train de jouer avec son épée parce que son père a coupé la tête de Moore dans la bataille et l'a pendu, desséché. Des poutres, et Orlando est en train de se battre contre cette tête desséchée d'un mort, donc c'est très violent.
Donc dès le début de roman, je vois subtexte de la critique d'une narrative impériale, colonialiste et patriarche, si je peux le dire. Et je pense que c'est aussi le motif par lequel on a choisi cette couverture pour la première édition d'Orlando. Ça, c'est la première édition de Hogarth Press. Et je l'ai trouvée, mais j'ai cherché des informations sur pourquoi. Je sais que c'est un portrait du VIe siècle, qu'il était détruit pendant la... l'entre-guerre, mais je ne sais pas pourquoi on a choisi ce portrait. Il n'est pas un portrait de la famille ni de Vita Sackville-West ni de Virginia Woolf, et tous les autres portraits sont portraits de ces deux familles.
Oui.
Mais,
parce qu'il faut dire, dans le roman, il y a, dans l'édition qui succède à la première, il y a des portraits de personnages réels ou de personnages anonymes qui vont illustrer Orlando à des différents stades de sa vie. Ça, c'est la princesse russe.
Qui est le portrait de la nièce de Virginia Woolf, Angelica Bell. En costume. Et c'est vraiment drôle que tous les portraits sont des personnes de la famille, mais tous en costume aussi. Ouais. Elles jouent ce qu'elles sont. C'est un jeu de miroir de rôle constamment.
C'était l'habitude de la fin du 19e, début du 20e. Pierre Loti, c'est l'exemple le plus notoire en France. Je voudrais faire une petite remarque. Associer cette idée de nature, la double fleur, à ce qu'on avait vu avec Goethe et le poème du Ginkgo Biloba. Parce que c'est la même idée qui est reprise, l'idée d'une identité double. Okay. Oui, excuse-moi.
Ok. Donc, pour revenir à... j'irai revenir à la nature. Mais maintenant, pour faire la liaison entre cette questionnement de la nature qui le roman entraîne aussi, parce que il y a une phrase très fameuse qui dit he needed another language and another landscape, ransack the language as he might, he could not explain. Et ça, c'est ce qu'on dit, laisser de décrire la princesse. Ouais. Sacha.
Il faudrait un autre langage, une autre langue. Elle est toujours à la recherche d'un vocabulaire qui lui servirait pour décrire ce qu'elle voit.
Oui. Et maintenant, je me suis perdue. Ok. Je voudrais commenter ce portrait avec une lecture de Paulo B. Preciado. Paulo B. Preciado est un professeur espagnol qui vit aux États-Unis à ce moment. Je pense qu'il a vécu en France. Il est enseigné à Barcelone. Il était le fiancé ou la fiancée de Virginie Despentes. Son nom était Beatrice Preciado, et depuis 2010, il a entraîné une transition qu'on ne dit pas en ce qui la transition consiste, mais il s'appelle maintenant Paulo B. Preciado. À cause de so to come to what Alberto was saying, du sexe qu'on assigne à la naissance, je vais lire deux citations. Il a dit récemment qu'un jour on croira que c'était brutal de s'assigner le sexe à la naissance. Et je pense que c'est une phrase qui mérite la réflexion. Bien sûr qu'on est né avec des organes sexuels, mais ça ne entraîne pas qu'on dit « je suis une femme, tu es un homme ». Et comme Virginia Woolf et Paulo Preciado le disent, ce sont des discours et des technologies sociales comme les vêtements, les habillements, et ce n'est pas par hasard qu'il y a beaucoup d'habillements dans ces portraits, et il y a toute une réflexion sur les habillements. Virginia Woolf, quand Orlando devient femme, c'est quand il prend conscience, ou elle prend conscience, qu'elle n'a pas subi une transformation de moi, de plusieurs mois, mais elle doit se déménager d'une autre forme, elle ne peut pas dire les langages obscènes, et tout ça parce qu'on la reconnaît comme femme.
Je t'interromps pour signaler qu'au 19e siècle en particulier, l'idée de la mode qui était inventive et exubérante à l'âge élisabéthienne a été contrainte à subir les normes conventionnelles de chaque genre. Et que on avait une sorte de déguisement uniforme pour montrer non seulement qu'on était homme ou femme, mais à quelle classe sociale on appartenait. Et que en anglais apparaît le mot bounder, qui est un mot qu'en français on utiliserait pour dire quelqu'un de malhonnête, quelqu'un qui ne convient pas, mais qui à l'origine veut dire quelqu'un qui saute d'une barrière sociale à l'autre, donc c'est quelqu'un qui est un parvenu, on dirait en français. L'idée est la même. Mais donc les conventions de la mode veulent qu'on s'habille d'une certaine façon. Et c'est bon, on peut entrer dans des détails, mais il y a un historien qui signale par exemple que les hommes commencent à porter des barbes noires carrées à la suite des découvertes archéologiques en Babylone, et qu'on découvre ces figures des rois, et donc ça devient une image du pouvoir traduit dans l'iconographie victorienne. Ok, excuse-moi.
Ok, la deuxième citation, c'est sur la question de la sexualité et du sexe et du genre. Paulo Preciado, et je ne sais pas pourquoi, parce que je ne connais pas à fond encore son œuvre. C'est très provocant et il y a des choses que nous bouleversent. Mais il ne fait pas la distinction entre le sexe et le genre. Il parle toujours sexe. Mais il fait la distinction, bien sûr, entre les sexes et les sexualités.
Excuse-moi, parce que ça, c'est important. En anglais, il y a le mot « sexe » et le mot « gender », tandis que en français ou en espagnol, « genre » veut dire un genre littéraire ou le sexe de la personne. Et je crois que Virginia Woolf profite de cette distinction en anglais, et je ne sais pas si elle connaissait cette distinction en français, cette sorte de plurisens du mot qui aiderait à expliquer pourquoi elle traduit ça en termes littéraires.
Within the theatrical fiction of sexuality, it is possible to want to lick the soles of shoes, to want to be penetrated through every orifice, and to chase a lover through a wood as if he were a sexual prey. Two differential factors nevertheless separate the queer aesthetic from that of the straight normativeness of the old regime, the ancien régime. The consent and the non-naturalization of sexual positions, the equivalence of bodies and the redistribution of power. Donc, j'ai choisi cette citation parce qu'ici, on voit qu'il y a un homme qui chasse des prises.
De quoi?
Prises. Des prises sexuelles. Prises. The prey, sexual prey.
Praise, la proie.
La proie.
Okay. La proie.
Ah. Il y a un homme qui chasse les proies, qui sont des rennes, gazelles, comme dans l'Ancien Testament.
Des cerfs, oui.
Et c'est un satyre, donc c'est déjà une métamorphose d'Ovid. Je pense qu'Ovid est une subtexte très important dans Virginia Woolf. Mais il y a un point ici dit par Paul Psiat, que c'est la non-naturalisation des positions sexuelles. Et je pense qu'il veut dire qu'on les prend pour naturelles parce qu'il y a une narrative depuis des siècles. Qui a construit cette position. Et le problème, et on a entendu en grande part de cette narrative, et comme je dis, peut-être il n'y a pas encore une alternative, si bien qu'il y a toute une pléthore d'écrivains qui le chassent. Mais le problème est que cette narrative a été construite pendant des siècles par une partie de la population qui s'appelait humaine, mais l'image de l'humaine était construite à l'image de l'homme blanc, Moyen-Âge, savant, bien sûr. Je sens qu'il y a ici un problème de représentation. Donc, quand on parle d'identité, bien sûr, c'est fluide. Mais on doit penser à la représentation du connaissance par des autres parties. Et ça, c'est un problème très récent, parce qu'on ne se demandait pas qui devrait être à une table comme ceci. Et maintenant, je pense qu'on doit questionner le privilège de cette narrative, même si on n'a pas de solution, comme je crois. Et ça c'est bon, que Virginia Woolf ne l'avait pas. Mais il y a un mythe qui, et encore pour aller à la nature, il y a un mythe que parcourt le roman de Virginia Woolf, qui c'est Daphné et Apollon. Et il y a une tapisserie, et la tapisserie, nous savons, c'est très associé à la femme, à Pénélope, à l'histoire par les images, et aussi à ce qu'il y a de l'autre côté de la pâtisserie. Pâtisserie. le hall de la vieille maison de Orlando, il y a une tapisserie de laquelle on s'aperçoit environ la page 70, quand il est encore homme, peut-être il l'a acheté, parce qu'il y a en face de la vie d'Orlando où il est ennuyé et il décide de remeubler toute la maison. Et c'est la première fois qu'on se rend compte qu'il y a cette tapisserie et qui représente cette mythe. Et aussi en mythe ovidien, où Apollon chasse Daphné. Il a été rusé par Cupido, il a été tombé amoureux, mais Daphné s'enfuit. Et elle ne veut pas Apollon et elle demande soit à Zeus, soit à son père de faire quelque chose. Et ce qu'il avène, c'est qu'elle est transformée en laurier pour que Apollon ne la prenne pas. Et il y a aussi une partie que je pense jolie de cette histoire dans certaines versions, parce que Apollon dit bon, je peux pas te prendre, mais pourrais-tu me donner l'ombre? Et elle dit oui et court. Elle se penche pour lui donner la sombre, mais c'est tout ce qu'elle fait. Mais c'est aussi une narrative insatisfaisante parce que ça semble être la seule escapatoire de la femme. C'est bon, je deviens nature. Et là, on risque aussi l'essentialisation de la nature en continuité de la femme. Ce qui est vrai, c'est que la tapisserie reparaît, spécialement dans la fin de la roman, et ce que Woolf répète, c'est « and still the hunters », et elle le dit soit au pluriel, soit au singulier, et les chasseurs chassaient encore, et Daphné volait, flou, encore. Et ça, bon, elle ne le laisse pas transformer en laurier, apparemment, si bien que la première fois que Orlando prend le stylo dans le roman pour écrire, il veut attraper le verre dans l'oreiller et il découvre qu'il ne peut pas.
Orlando écrit un long poème, « The Oak Tree », qui incorpore ses idées sur la nature et aussi rejoint le mythe que Margarita est en train de nous décrire, parce que si bien le poème c'est sur une chaîne et pas sur un laurier, ça rejoint l'idée de cette union de la nature et le féminin, tandis que le masculin reste à l'extérieur, et le chasseur et le contemplateur, mais il ne peut pas avoir un dialogue intégré entre le masculin et la nature.
Il y a des scènes aussi où Orlando se... subit cette transformation aussi. Il sent que le chêne et la spine, the spine de la terre et qui à la continuation du chêne, il peut monter le dos du monde. J'aime bien le poème, l'idée d'écrire ce poème pendant 400 ans. Ce qu'on voit dans la part du roman qui est un roman à clef, c'est que le poème était aussi une parodie du poème que Vita Sackville écrivait et qui a gagné un prix. The Land, c'est un poème épique, et c'est pourquoi aussi j'aime bien le jeu de mots A Land Our Own, parce que il est possible aussi qu'en écrivant ce roman
Vous vous souvenez, j'avais dit que Woolf avait eu une liaison avec Vita Sackville-West. Donc, c'est une façon d'incorporer cette relation au roman sous l'aspect d'un roman à clé, mais enfin, qui n'était pas vraiment un roman à clé parce que tout le monde connaissait cette liaison.
Dans la partie où je pense que Virginia Woolf se rebelle contre cette essentialisation relation femme-nature, bon, on le voit d'un côté parce que, comme je dis, la relation est la même quand Orlando est homme et quand Orlando est femme, mais aussi ce qui se passe avec la maternité. Virginia Woolf, comme Lewis Carroll dans Alice, méprise le sentiment maternel. En fait, Alberto a dit que Orlando avait un enfant comme femme, mais il les a aussi comme hommes. Il avait trois enfants par une femme turque. Et ça, c'est aussi une des choses intéressantes. C'est un voyage. Tout le roman est un voyage qui n'aboutit pas. Et un voyage par l'espace, un voyage par le temps. Et par des moyens de transport différents, des chameaux, des bateaux, des...
C'est très mouvementé comme
roman. Même un avion apparaît à la fin. Ouais. Et comme je disais, les trois enfants sont proscrits par la mère, ou par le père, il était un père en ce moment. D'une façon très, très violente, qui rappelle Lewis Carroll quand il représente la duchesse qui est avec l'enfant et l'enfance.
L'épisode d'analyse auquel Margarita se réfère, c'est quand la cuisinière, sous l'aspect de la duchesse, tient un cochon dans ses bras et le cochon se transforme en garçon. Parce que Lewis Carroll disait qu'il aimait tous les enfants sauf les garçons.
Finalement, quand elle est femme, le processus d'avoir l'enfant, ça mériterait toute une heure d'analyse. C'est un passage très, très belle, c'est trois pages, mais on se rend pas compte que ça, c'est un accouchement parce que personne n'avait pas dit que Virginia Woolf était enceinte. Donc, ce qu'on voit en première partie, c'est un robin de Kingfisher. Kingfisher.
Je ne sais pas comment on appelle ce oiseau.
On l'appelle le garde-rivière en portugais.
Martin-pêcheur.
Okay, on a ça aussi au portugais. Mais on l'appelle aussi le garde-rivière. Bon, et il y a ce Martin-pêcheur qui vient ou qui ne vient pas, qui attrape, on attrape. On ne comprend pas ce qui se passe. Et puis, il y a tous les bruits de la nature et de la cité en conjoint. Et on entend des soupirs qui sont plus forts, mais on ne se rend pas compte que c'est un accouchement. Si on relit, on voit une espèce de cycle biologique qui
est
là.
Oui.
Mais après, on est dit, et un enfant est né à Orlando. Et si bien que ce passage est très belle, on n'entend plus de cet enfant, sauf au moment où Woolf est dans un magasin et elle veut des petites bottes, peut-être pour l'enfant, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. On sait par contre qu'elle revient à publier le chêne et que c'est cette dualité qu'on voit entre les obligations de mère, le rôle de la même femme, et c'est pourquoi je parle de la société patriarcale, c'est pas pour les hommes, ce sont pas les hommes seulement qui font le système patriarcal, ce sont les femmes, comme on voit dans Mrs. Ramsay, la femme
la promenade au phare, dans la promenade au phare.
Mais qu'est-ce que je disais?
Excuse-moi, pour le Martin Pêcheur, c'est comme Virginia Woolf le savait très bien, c'est un des symboles de la résurrection dans l'iconographie chrétienne. Donc, attaché à la naissance, ça a beaucoup de sens. Ce qui, dans la promenade au phare, est à la fin la vision que Mrs. Ramsay a, et qui, le roman finit, on ne sait pas très bien ce qu'elle a vu, mais elle dit « j'ai eu ma vision ». Donc, ok.
Et ça, c'est très drôle dans Virginia Woolf. Parce qu'il semble toujours qu'on va aboutir à quelque chose. Il y a une partie que j'adore, qui c'est en fait divers, mais pour les personnes comme moi qui sont spécialistes au 19e siècle, moi en littérature nord-américaine, il y a une partie où elle, au 19e siècle, elle achète tous les livres parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle est au 2e siècle et elle doit avoir toute la littérature. Et elle va à la maison, tous les livres sont là, et elle étudie, elle souligne, elle se demande si elle doit avoir le thé avec Christina Rossetti. Et le narrateur nous dit, bon, pour faire une simu de la littérature victorienne, il y a deux options. On fait un traité, on fait un résumé en 6 lignes. Mais comme le biographe, la biographesse, et je vais parler de ça un peu, est en train de dire ce que Orlando souligne, à la fin, ce qu'elle dit, bon, on a déjà déplacé les 6 lignes. Elle a abouti à une grande conclusion, mais on a déjà surpassé les 6 lignes et on ne peut pas la confier. Et on ne sait pas ce qui se passe. Il y a un amusement très grand. Et pour revenir un peu à Paulo Preciado, il a un petit chapitre de son livre « Un appartement en Uranus » qu'on peut faire la relation aussi avec qui s'appelle « Orlando on the Road ». Et il dit que dans ce voyage qu'il faisait, il a pris avec lui le journal de Virginia Woolf quand elle écrivait « Orlando ». Et curieusement, dans le journal, elle dit je me marie avec la solitude. Et on a vu que Orlando était seul. Mais curieusement, Orlando se marie avant le vrai ou fictif mariage, on ne sait pas. Mais il dit à un certain moment je suis la fiancée de la colline, qui en anglais est Moor. Comme le mot qu'il a coupé dans la première partie. Mais Paulo Preciado dit il y a en plusieurs parties du roman, depuis la deuxième partie, il y a cette exclamation extasie, extasie, extasie. Et Paulo Preciado dit ça, c'est le mouvement d'attachement. De pouvoir changer le sexe du personnage de notre narratif. Et il fait une comparaison avec son propre changement. Et au moitié de ma vie, j'ai changé de sexe et maintenant j'ai l'extase d'être un autre personnage. C'est drôle. Biographe, le biographe, la biographesse. S'il y avait ce mot, il n'existe pas, mais on a poète, poétesse. Virginia Woolf, le biographe de Orlando, au début, et inégalement, irréfutablement un homme. Mais à la moitié du roman, elle parle du biographe de deux sexes. Et à la fin du roman, peut-être le biographe est encore un homme, on voit un ou deux prénoms personnels, mais il y a tout un attaque, un combat avec ce qu'elle appelle le romancier homme, le meilleur novelist.
Qui est très présente dans une chambre à soi, parce qu'elle fait ce contraste constamment. Donc, peut-être pour conclure, on va dire ce que tu penses sur la possibilité que l'écrivain a de passer d'un genre à un autre, de passer d'un sexe à un autre, de passer à une identité à une autre. Et dans le contexte de ce que nous sommes en train de discuter sur l'Europe, combien il est important de se mettre justement dans le regard de l'autre, pas à regarder l'autre, mais voir comment l'autre se regarde. Nous avons vu avec Reynos Papadopoulos qui nous a parlé de ce que les réfugiés, les immigrants, ceux qui sont involontairement transloqués, qu'il faut mettre le point sur ce qu'ils veulent, eux, comprendre, ce qu'ils veulent, eux, avoir comme identité, ce qu'ils veulent faire, l'endroit où ils veulent résider. Il ne suffit pas d'avoir cette chose un peu dénigrante qui est la tolérance envers les autres, parce que ça toujours implique une hauteur de laquelle nous à partir de laquelle nous parlons. Comme Virginia Woolf, nous devons passer d'un sexe à l'autre, passer d'un siècle à un autre, passer d'une identité à l'autre, parce que je crois que si nous devons considérer l'Europe, nous devons la considérer dans le contexte de la planète tout entière et savoir que toute autre personne est nous-mêmes. Il y a une expression en anglais qui dit « There, but for the grace of God, go I ». Là, en signalant quelqu'un, sauf à cause de la grâce de Dieu, c'est moi qui va. C'est « Je suis toujours l'autre ». Rimbaud avait raison dans les deux sens. « Je est un autre, je est l'autre, je sont les autres ». Et si nous pouvons nous accrocher à cette idée dans le contexte de la politique de la littérature, peut-être nous verrons un peu plus clair.
Je voulais une petite chose. mais je pense que c'est pas seulement, parce que c'est une question compliquée. Je sais que nous sommes dans l'heure, mais c'est une question très sensible dans laquelle je pense qu'on doit réfléchir beaucoup. Je réfléchis encore parce que c'est merveilleux de dire que l'écrivain peut changer de sexe, peut s'imaginer une étoile. C'est juste. Mais quand ça touche à écrire l'autre, je pense que ce n'est pas suffisant de se mettre dans le regard de l'autre. Il faut inviter l'autre à partager cet regard. Il faut demander à l'autre, est-ce que tu te revois? Et Virginia Woolf a fait ça. Virginia Woolf a envoyé des lettres à Vita Sackville-West. Et Vita Sackville-West a collaboré dans le roman parce que les deux ont choisi les photographies. Et je pense que peut-être la phase prochaine, c'est qu'on recule et qu'on laisse l'autre avec au sens autorité, dans le sens, parce qu'on peut partager l'autorité. Je portais ici des nouvelles lettres portugaises qui sont peut-être un exemple de descendance de la Virginia Woolf. On ne sait pas qui a écrit, et ce n'est pas écrit comme en narrative hiérarchique. Ce sont plusieurs textes de plusieurs formats échangés entre elles. Mais je pense, comme je disais, peut-être la prochaine phase, c'est de reculer un peu et que l'autre écrit son regard.
Merci.